Biologie naturelle, 9 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Répond à ces diverses questions, elles se multiplient parce que la ratio boni est quelque chose de difficile à saisir. Alors, premièrement, la dernière fois, nous avions vu la nécessité d'une métaphysique de l'être, car le bien comme tel ne rend pas compte de l'intelligibilité de la réalité. Cela voudrait-il dire que la nécessité d'une métaphysique de l'être ne se découvre qu'avec une critique? Non. Mais de manière, l'intelligibilité de l'être, parce que l'intelligibilité de l'être se découvre en critique. L'intelligibilité de l'être est formalisée en critique, mais elle est vécue dans la connaissance proprement philosophique. Toute la philosophie nous découvre que la réalité parle à notre intelligence. Que notre intelligence est faite pour connaître toutes les réalités qui sont autour de nous et nous-mêmes. Et autrement, vous mettriez la critique avant la métaphysique. Une tentation permanente de mettre la critique avant la métaphysique. Depuis quand? On est tous un peu anciens, n'est-ce pas, depuis quand? Alors, on met toujours la critique avant. C'est très vrai que la critique met en pleine lumière l'intelligibilité de la réalité. Mais l'intelligibilité est saisie avant la critique. Comment je ne pourrais pas formaliser cette intelligibilité? Ne peut-on pas dire que toute perfection implique nécessairement la bonté, que toute perfection est aimable? Là, on va y revenir là-dessus. Là. S'il existe des hommes vertueux, mais qui ne sont pas bons, n'est-ce pas en fait une caricature de la perfection, donc une non-perfection? Ah, c'est... Il y a des gens vertueux qui n'attirent pas. Ils sont parfaits. Ça existe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ils sont parfaits. Ils n'attirent pas. La bonté attire. Il y a des gens amicabili, comme dit Aristote. Et des gens amicabili, c'est pas la vertu, cette chose. Parce que l'amitié est un au-delà de la vertu. L'amitié présuppose la vertu, mais c'est un au-delà de la vertu. Il ne faut pas ramener la bonté à la perfection. C'est autre chose. Alors, il faut saisir la différence. La perfection, il ne manque rien. Il ne manque rien. Tout ce qu'on peut avoir, on l'a. On doit l'avoir. Tout ce qui est propre à notre nature humaine, nous le possédons. Mais la bonté, ou plus, c'est être capable de susciter un amour. Capable de susciter un amour. Il y a des gens qui sont bons. On n'est pas bon pour tout le monde. Hein? Mais attention, on est parfait pour tout le monde. Ah, là, c'est très curieux. Un homme parfait, dans n'importe quel milieu il sera, ce sera bien de dire qu'il est parfait. Il est vertueux. Oh, on ne peut rien lui reprocher. Il arrive toujours à l'heure. Ça fait partie de la perfection, c'est pas? Il arrive toujours à l'heure. Il est parfait. Une rectitude absolue, une fidélité absolue. Tout ce que vous lui demandez, il le fait. Avec exactitude, précision, il est parfait. Dans l'ordre du facere, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre du parfait. Mais il y a un petit quelque chose qui manque. Ça viendra avec l'âge. Il sera bon. Plus de parfait, un fromage est bon, parfait, et peut-être bon avec un petit peu de vieillesse. Hein. Comme le vin, il est parfait, il sera bon. Avec un peu de... C'est vrai, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, une manière d'être particulière, qui est quelque chose de spécial. C'est très curieux, alors il faut saisir ça. On va revenir là-dessus, c'est ça qu'il faut saisir, point de vue philosophique. Dans la question sur la perfection de Dieu, nous avons dit que saint Thomas procédait selon une démarche réductive, partant du bien, il arrivait à l'ens en puissance par le désirable, le parfait et l'acte. Donc, en passant par le désirable, le parfait et l'acte. Donc, tout bien est désirable. Ce n'est pas sur la perfection de Dieu, c'est le point de vue de la bonté de Dieu. Partant du bien, il arrivait à l'aide en puissance par le désirable, le parfait est là. Donc tout bien est désirable, tout désirable est parfait. Tout parfait est en acte, et tout ce qui est en acte est. Pourriez-vous faire la démarche inverse et nous montrer comment tout être n'est pas en acte, tout être en acte n'est pas parfait, etc. Bon. Saint Thomas le fait, cette démarche avec ça, il fait les deux. Je vous renvoie à l'article de Saint Thomas. Et je prends tout de suite la troisième question. Parce que s'il le fait, donc c'est simple, il fait les deux démarches, aller et retour. Allez, des paliers différents. Alors, je prends ici, la ratio boni égale désirable ou appétible. Le désirable tend vers la perfection. Et toujours cette question, je comprends très bien, elle est très rude et très très belle. Saint Thomas montre bien le bien et l'être sont identiques. Ils ne diffèrent que par la raison. Et en voici la preuve. La notion de bien consiste en ceci, que la chose qualifiée bonne s'offre comme désirable. Donc l'appétit du désir. Le bien implique la pétibilité. Aussi le philosophe dit que le bien, c'est ce que tous désirent. Or, manifestement, une chose est désirable selon ce qu'elle a de perfection, et tout être tend à se parfaire. En outre, rien n'est parfait que selon ce qu'il est en acte, donc rien n'est bon que selon ce qu'il est être. Car l'être est l'actualité de toute chose, comme on l'a vu précédemment. Ainsi, il est clair que le bien et l'être, quant à leur réalité, sont une seule et même chose. Donc vous partez du bien pour rejoindre l'être en acte. Et l'être en acte, c'est l'être parfait, l'être parfaitement lui-même. Alors, la demande, c'est de partir. Et la demande, c'est la solution première qui fait l'inverse. Hein. La solution première fait l'inverse. On part de l'être en acte, pour montrer que l'être en a va impliquer la perfection, que la perfection va impliquer, peut impliquer, le point de vue du désirable, et donc rejoindre le bien. Vous voyez ? Comprenez bien les deux démarches.
Le bien implique l'être en a. Ce que vous pouvez dire, c'est donc l'être. Le bien implique ce qui est. Vous pouvez dire que ce qui est rejoint le bien.
Non. Parce qu'alors à ce moment-là, les rationnels seraient les mêmes. Vous voyez bien. C'est pour ça que dans l'acte secundum, il montre la différence. Il montre la différence en prenant le raisonnement du signe plus super que vous avez montré. Qu'est-ce que c'est que être plus super? Qu'est-ce que c'est qu'être bon plus super? Les deux critères sont différents. Donc, vous voyez comment, partant du bien, je montre comment l'être en acte est inclus dans le bien, mais je ne peux pas partir de l'être
pour rejoindre quelqu'un. Impossible. Pourquoi? Parce que justement, l'aide fille de Jupiter est autre chose que le bien simple. Et donc là, je montre la différence. Ici, je montre l'intégration de l'être dans le bien. Et là, je montre la différence au niveau de la semaine. Il y a deux raisonnements. Et pour montrer la différence, je pars de l'être, c'est ce que ou de bien ce que je pour montrer que c'est autre chose, le critère qui me permet de dire que l'être est absolument parfait, ou de dire que le bien est absolument parfait. Moi, je le bien parfaitement bien. Et que l'être est parfaitement parfait. Je relis ça. La ratio boni égale désirable, ou happy. Le désirable tend vers la perfection. C'est une flèche, plus vite que ça. Mais la perfection se prend de la fin et de la forme. Cependant, il n'y a qu'une seule bonté. Pourquoi ? La perfection se prend de la fin et de la forme. La perfection se prend de la forme, surtout. Ce que vous dites, ce qui est parfait, c'est celui à qui rien ne manque. Donc, il ne manque aucune forme, aucune qualité. Donc, la perfection se prend du côté des qualités et du côté des formes. Pas immédiatement du côté de la fin. C'est la bonté qui se prend du côté de la fin. On ne peut pas dire que la perfection implique la fin. Non. La perfection, il ne manque rien. Un être parfait, il ne manque rien. Donc, il a toutes les qualités qu'il doit avoir. Cet étudiant est parfait. Il lui manque rien. Il a partout la note supérieure. Il lui manque rien. Il est parfait. Comme le pouvoir. Est-il bon? C'est autre chose. Le bonheur est diffusé. Le bien est diffusé. Donc, en tant que bien, il est source. Il attire. Vous voyez, là, c'est, je crois tout simplement ce fait. La bonté est reliée à la fin. La perfection est reliée à la qualité. La perfection est beaucoup plus. Je sais que certains, le raisonnement de Saint-Thomas à propos de la perfection, il le relie à l'acte. Et là, tout au point de vue de la fin. Mais si je veux préciser ce que c'est la perfection, je prends toujours « est parfait celui à qui rien ne manque ». Je sais que je peux dire aussi, c'est l'autre définition de la perfection, et partout celui qui est capable d'engendrer son semblable. Alors à ce moment-là, vous prenez la perfection en tant qu'elle est source d'une communication de la forme. Vous voyez ? Pas d'une communication de la forme. Quelle différence y a-t-il entre la ratio et la plénitude ? Ça, c'est une très bonne question. On a touché ça, je crois, très rapidement, mais pas suffisamment. J'y reviens à l'instant. Parce que c'est important, quand tu parles on va t'amener la ratio et l'activité. La ratio traduit logos. Hein? Prenons toujours le grain. Logos. C'est-à-dire l'activité, c'est un logos. Donc l'activité, c'est une ratio. C'est l'intelligibilité première que je saisis dans la réalité. L'intelligibilité dernière, alors j'aurais dit ratio ultime. Je ne dirais pas plurité ultime. Je dirais ratio ultime. Mais ratio est un logos. Or, le taux I, L, L, là, c'est un logos. Que c'est l'intelligibilité de cette réalité particulière. Mais c'est un logos particulier. C'est le logos de telle nature. Alors, je dirais la cuisité. C'est le logos de telle nature, c'est la cuisité. La cuisité de l'homme. La cuisité du cheval. Et cette cuisité, c'est le fondement de l'intelligibilité de cette réalité. C'est son intelligibilité. Donc c'est bien par rapport.
désirer action lorsque je serai au-delà des prédicables pour saisir justement ce qui est antérieur aux prédicables. Et pour les transcendantaux, je parlerai de ratio. Je ne dirai pas qualité. Je ne dis pas la qualité du bien. Je dis la ratio du bien. Mais au fond, c'est la même chose. Mais c'est pour éviter, parce que qualité est un des plus. Il n'y a pas de définition de l'être. Alors, il n'y a pas de définition du bien. Alors, il n'y a pas de définition de transcendance. Et parce qu'il n'y a pas de définition, je veux dire à ce que je veux que c'est le mal. Je veux que c'est le mal, c'est comme le mal. Donc, vous voyez, le totiéména, c'est la ratio au niveau de la définition. C'est-à-dire la ratio au niveau de telle réalité particulière, ayant telle forme particulière. Si je creuse plus profondément et que je dépasse les points de vue de la forme prédicamentale, et que je suis au-delà de la forme prédicamentale, c'est-à-dire je suis en présence d'une détermination transcendantale, je parlerai de ratio. Je parle transcendantale au niveau atomique, pas au niveau conscient. Donc dès que je suis au niveau d'une ratio, d'une forme de détermination au-delà des prédicaments. Je parlerai de ratio. Il n'y a plus de prédicaments. Ça va? Vous comprenez suffisamment? Le thème de cette question, vous aimez, hein, quand on est dans les questions, là, il faut que je pose une question, bon, précise un peu plus. Pour que vous compreniez les deux. Vous voyez, il faut essayer de comprendre comme ça. Toute réalité est intelligible. Vous êtes intelligible. À chaque instant, il y a quand même en vous quelque chose qui ne vit pas, qui ne vit pas. Pourquoi ? Toujours en chacun de vous, quelque chose d'ineffable, vous êtes intelligible. Vous êtes totalement intelligible pour vous. Dieu épuise votre intelligibilité. Dieu épuise votre intelligibilité. Mais je n'épuise pas votre intelligibilité. Et votre voisin n'épuise pas votre intelligibilité. Donc vous avez toujours la chance d'être pour votre voisin, une réalité inconnue. Une réalité cachée. Pour chacun d'entre nous, on est une réalité cachée. Il y a quelque chose en nous qui échappe à l'intelligibilité de votre voisin, à l'intelligibilité que je peux avoir de vous. Merveilleux, vous savez, de dire ça au Père Maître, qui ne me comprend pas. Il y a une intelligibilité qui échappe. Toujours quelque chose qui échappe, et qui est en toute vérité. Parce que vous êtes tous ineffables, extraordinaires. Mais il y a en vous quelque chose d'intelligible. Et ce qui est intelligible, c'est votre cuité est intelligible. Une intelligibilité qui est l'intelligibilité prédicamentale. Et puis il y a en vous une intelligibilité plus profonde encore, c'est l'intelligibilité fondamentale, le prédicable n'est jamais fondamental, qui est la ratio, qui est la ratio bonus, qui est la ratio viri, qui est la ratio unie, qui est la ratio alitrine, vous avez tout en vous. Tous les transcendantaux sont en vous. Fondamentalement. Donc vous avez en vous des rationnels qui font qu'on peut creuser des plus profonds. Mais pour nous, chacun d'entre nous, le problème, c'est qu'il va juste comprendre. Il va juste comprendre. Comment il est fini ça ? Il est fini par le corps. La ratio est au-delà de ça. C'est très important. Toute ratio est au-delà. Le principe, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Tandis que la cause est première dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être. Alors, au niveau des rationnels, vous êtes au niveau de l'appréhension. Il ne saisit pas la réalité en tant qu'on existe. Le point de vue de la cause, c'est toujours en tant qu'on existe. Donc, vous êtes au niveau du principe. Le principe, c'est la cause. À l'article 1, saint Thomas dit « Omnia appetunt suam perfectionem ». S'agit-il des réalités naturelles et plus précisément du désir naturel. La perfection de l'intelligence. Donc vous avez un désir naturel de la vérité. Vous avez un désir naturel du bien. Toutes les choses bonnes, vous avez un désir naturel. L'objection première de l'article 1er n'a-t-il pas pour but de montrer le fondement réel de la distinction des rationnels? Oui, ici, le fondement réel de la distinction des rationnels, ça c'est du les rationnels, ça c'est un fondement réel. Comment c'est pas des rationnels? C'est des êtres réels. Les rationnels ne sont pas des êtres réels. Si vous cherchez la différence des rationnels, vous cherchez nécessairement le fondement naturel qui distingue le bien de l'autre. L'article 2 n'est-il pas capital pour comprendre l'objectivité de la connaissance? Mettre le bien avant l'être, subjectivité. Je reprends l'article 2, ce que nous y sommes. Le bien est-il logiquement antérieur à l'être? Donc le bien est-il, selon la raison, non pas logiquement, premier. Si c'était logiquement, on chercherait le fondement de la raison, comme on cherche le fondement de la logique. On dit qu'il n'y a pas de fondement du rationnel. Le rationnel, c'est des principes dans l'ordre de l'intelligence. Donc il n'y a pas de fondement. Il est dit, alors je relis simplement, très vite. Il est dit dans le livre des causes que la première des choses créées est l'esprit. Le point de départ d'une réponse exacte est celui-ci. Il faut dire en effet que l'être, selon la raison, est premier que le bien. Or, en effet, la raison signifiée par le nom est ce que conçoit l'intelligence de la réalité. Ce que l'intelligence appréhende de la réalité. La ratio significata permanens. La raison signifiée par le nom est ce que l'intelligence conçoit de la réalité. Et signifie cela par les vocens, par la parole. Cela donc est premier selon la raison qui tombe cadit, très difficile à traduire, qui prius cadit in conceptione intellectus. Ce que l'intelligence appréhende en premier lieu. Alors, selon un mode imaginé, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. On jette des petits cailloux dans le puits. Dans le puits de l'intelligence, ça tombe. Et qu'est-ce qui fait la profondeur la plus grande? C'est quand vous jetez l'être dans l'intelligence. Alors Kadi, le plus est profond. Tandis que quand vous jetez quelque chose d'autre, c'est moins profond. Tandis que là, c'est quelque chose de très profond. Donc, il faut bien saisir cette affirmation de saint Thomas, je vous l'ai dit. Saint Thomas l'emploie constamment. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est elle. Celui qui est premier selon la raison, c'est cela que l'intelligence conçoit en premier lieu. Or, primo in concezione intellectus, cadit M, c'est l'aide qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Parce que, selon cela, chaque réalité connaissable, chacun est connaissable qu'il est en acte. C'est très joli, vous voyez comment l'acte vient sauvegarder l'objectivité de l'aide. Ça, je dirais plutôt, vous, comment l'acte vient défendre la subjectivité de l'aide. Non? Primus autem concepit intellectus cadit est. Donc ce premier qui, dans la conception de l'intelligence, tombe, c'est l'être. Ce que l'intelligence saisit en premier lieu, c'est l'être. Parce que, selon cela, chacun est connaissable qui est en acte. D'où l'être est premier objet de l'intelligence. Et ainsi, il est le premier intelligible, comme le son est le premier audible. Donc, selon la raison, l'être est premier. L'intelligence regarde en premier lieu dans toute réalité son être. Je vous ai dit la dernière fois, c'est ça qui nous fait comprendre comment la métaphysique est nécessairement une métaphysique de l'être. Et ceci repose sur le fait que tout ce que vous comprenez, tout ce que vous concevez, tout ce qui est intelligible dans la chose, est intelligible parce qu'il est en acte, parce qu'il est être, parce qu'il existe. C'est la réalité existante qui est intelligible en premier lieu. Elle est intelligible en tant qu'elle est en acte. Pas en tant qu'elle est telle ou telle réalité, mais en tant qu'elle est en acte. L'acte est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et ça, c'est très très important pour ce que je vous disais à propos de l'appréhension et du jugement. Ça nous montre bien qu'il n'y a pas d'appréhension en dehors du jugement. Primo cadit in intellectus est. Et la raison pourquoi l'aide tombe en premier lieu, c'est parce que tout est intelligible en tant qu'il est en marche. Ipsum est servi. Très, 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 très beau de voir les deux ensemble. Donc, nous l'avions vu la dernière fois, je n'insiste pas plus là-dessus. Oui, quand vous dites alors, l'article 2 n'est-il pas capital pour comprendre l'objectivité de la connaissance? Pour comprendre que l'intelligence est faite pour la réalité en tant qu'elle est en marche. C'est ça l'objectivité de l'intelligence. L'intelligence elle-même est faite de tourner vers l'être. Elle est tournée vers la réalité en tant qu'elle vit en elle. Elle est faite pour cela. Alors, première objection. L'ordre des choses doit se retrouver dans les noms qui expriment ces choses. Or, parmi les noms divins, Denis met en avant le bien, ensuite seulement l'être. Quand vous regardez les attributs divins dans les noms divins, pour avoir lu dans sa vie, au point de vue philosophique et théologique, les noms divins de Denis. Hein. J'indique de temps en temps Denis qu'il faut lire. Hein. Alors les noms divins de Denis, il faut les lire. Je ne vous demande pas de lire le commentaire de saint Thomas parce que la traduction est plus difficile à trouver, mais si vous savez bien le latin, lisez les noms divins, c'est très très bien. C'est du très beau saint Thomas. Du saint Thomas qui commande Denis, c'est toujours très beau. Alors, il faut dire que Denis détermine au sujet des noms divins selon tutum quod importam circa deum abitinem cause. Donc, Denis détermine les noms divins selon qu'on regarde auprès de Dieu l'ordre de la causalité. Les noms divins sont commandés par l'ordre de la causalité. On sait que nous connaissons Dieu selon l'ordre de la causalité, selon l'ordre de la négation, selon l'ordre de l'immanence. Et ça, c'est du Denis, du reste. Hein. C'est du Denis. Saint Thomas ne cesse d'employer ça de trois manières pour nous connaître Dieu. Per modum causalitatis, per modum negationis, per modum immanentis. Il hein. Faut le connaître. Hein. C'est du Denis. Saint Thomas l'absorbe. Donc, du monde physique, les noms divins se mettent per modum causalitatis. Je ne peux pas nommer Dieu en dehors de la causalité. Je ne peux pas connaître Dieu en dehors de la causalité. La causalité est toujours présente. C'est là où les ontologistes n'ont pas compris. L'ontologie, c'est de vouloir atteindre l'existence de Dieu, c'est de vouloir atteindre Dieu au-delà de la causalité. Si on pouvait atteindre Dieu au-delà de la causalité, je serais Dieu. Il n'y a que Dieu qui se connaît au-delà de la causalité. C'est être l'égal de Dieu pour se connaître au-delà de la causalité. Et quand on est une pauvre petite créature, que l'on peut connaître le Dieu qu'en recevant tout de lui. Et donc, par la causalité. La causalité est le fondement de la connaissance de Dieu. Je ne peux connaître Dieu et remonter Dieu que par la causalité. Ça me semble évident. Au point de vue théologique, au point de vue philosophique, je ne pourrais pas dire ce raisonnement, mais au point de vue théologique, c'est évident, puisque je suis une créature. Alors, je continue. Nous nommons en effet Dieu en tant qu'il dit à partir des créatures. Comme la cause, comme on nomme à partir des effets la cause. Or, le bien, comme il a la raison d'appétible, implique la relation de cause finale, dont la causalité est première, parce que l'agent n'agit que à cause de la fin, et que de l'agent, la matière est mue vers la forme. Et c'est pour ça qu'il dit que la fin et la cause des causes. Ça, il faut retenir ça et bien le comprendre. La cause des causes, c'est la fin. Parce qu'elle commande la causalité efficiente, et que la causalité efficiente commande la causalité formelle, et que la causalité formelle dépend de la causalité, dépend, présuppose la causalité matérielle. Et ainsi, in causando, donc dans l'exercice de la causalité, le bien est premier, le bien est antérieur à l'être, comme la fin est antérieure à la forme. Et pour cette raison, entre les noms signifiés, qui signifient la divine causalité, la causalité divine, il est posé en premier lieu le bien plutôt que l'être. Et de nouveau, parce que selon les platoniciens, qui, ne distinguant pas la matière de la privation, disait que la matière est du même être et qu'elle s'étend à plus, à plusieurs, la participation s'étend à plus, la participation du bien, que la participation de l'être. Car la matière première participe le bien, comme la matière première a un désir du bien. Or, rien, bon, appétit inutile, rien de rien n'atteste rien, si ce n'est semblable à lui-même. Donc rien ne désire que le semblable à lui-même. C'est pourquoi il ne participe pas à l'être comme il est du même être. Vous voyez, ce raisonnement de Saint Thomas est très très joli. Il montre que les noms divins se prennent du côté de la causalité. Parmi la causalité, la première des causalités, c'est le bien. Donc, si j'ai un ordre de causalité, le bien passe avant l'être. Parce que dans l'ordre des causalités, c'est la fin qui commande toutes les causalités. Or, le bien a raison de fin. Donc, selon l'ordre de causalité, le bien passe avant l'être. Ça fait rigoureux. Dans l'ordre de la causalité, le bien est antérieur à l'être. Très curieux, ça, mais c'est très intéressant à bien comprendre. Hein. Et ça m'amène ensuite le point de vue du langage des platoniciens. Les platoniciens considèrent que la matière, c'est du non-être. Donc la matière n'a pas d'appétit de l'être, puisqu'elle est du non-être. Le rien n'a pas d'appétit vis-à-vis de l'être. Mais la matière a un appétit vis-à-vis du bien. Donc, on voit comment il y a du côté de la participation une étendue plus profonde du bien que de l'être. Donc le bien doit faire. Ça, c'est la raison par rapport aux platoniciens. Saint Thomas n'est pas d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que Saint Thomas cite Denis. Le bonum extenditur ad non existentia. C'est très très beau. C'est pas vrai, mais c'est beau. Le bien s'étend à ce qui n'existe pas. Le bien s'étend à ce qui n'existe pas. C'est du Denis. C'est du néoplatonisme. Pourquoi ? Parce que le bien s'étend à la matière. Et la matière est du non-être. Il y a un appétit de la matière vis-à-vis du non-être. Il faut se souvenir d'autre part que Denis est platonicien. Voilà, c'est ça le. Je lis le texte de Saint-Marie, la traduction. Il faut se souvenir d'autre part que Denis est platonicien et que pour les platoniciens qui ne distinguaient pas la matière de la privation, la matière était un non-être. Il s'ensuit que la participation du bien s'étendait plus loin que celle de l'être. Car la matière première participe évidemment du bien, où va sa tendance ? Peut-on tendre à ce qui vous est étranger ? Au rebours, la matière platonicienne ne participe point l'être, puisque, on l'a dit, non-être. Et c'est ce qui fait dire à Denis que le bien s'étend à ce qui n'existe pas. Alors, seconde réponse, voyons tout de suite la seconde réponse, vous voyez, c'est facile à comprendre. Pourquoi dans Denis, le bien passe avant ? Parce que du côté de la causalité, le bien est en fait. On verra l'article suivant, je dirais. Hein. Deuxième raison, deuxième objection. En outre, on doit considérer comme première la notion qui s'étend à un plus grand nombre d'objets. Or, le bien s'étend à plus de choses que l'être. Si l'on croit ces paroles du même Denis, le bien s'étend à ce qui existe et à ce qui n'existe pas, l'être seulement à ce qui existe. Donc, c'est la même objection. Le second doute s'éclaire par le même. Toutefois, une autre solution peut ici intervenir. On peut dire que le bien s'étend à ce qui existe et à ce qui n'existe pas. Non en ce sens qu'on puisse attribuer le bien à l'un et à l'autre, mais en raison du rôle joué par eux dans la causalité, étant convenu que par ce qui n'existe pas, on entend non pas le pur néant, mais ce qui est en puissance et non en acte. Voici ce qu'on veut dire. Le bien a raison de fin. Et avec cette fin, sont en rapport non seulement l'être en acte qui s'y repose, mais aussi l'être en puissance qui s'y dirige. En ce sens-là, le bien s'étend donc au non-être, mais à savoir le non-être relatif à l'être en puissance. Or, on ne peut pas donner à son concurrent le même bénéfice. En fait, c'est un peu une chose. On ne parle pas de concurrence. Hein. Il n'y a pas de concurrence entre le bien et l'être. On ne peut pas dire l'être aussi en ce sens comprend le non-être. Car l'être n'a pas rapport à une causalité qui enveloppe le non-être potentiel comme c'est la cause finale. Il ne se rattache, lui, qu'à la forme immanente ou exemplaire, et cette causalité suppose la chose en elle. J'espère que vous comprenez ce raisonnement de Saint-Thomas, des raisonnements assez particuliers et qui sont extrêmement intéressants. Alors, qui nous permet de dire ceci, au moins prenez la conclusion. Très curieux et très intéressant à bien réfléchir là-dessus. Le bien, l'être n'est pas totalement produit par rapport au bien. C'est pour ça que le bien rival de l'être, l'amitié de la partie du bien. C'est très très intéressant. Ça montre que je ne suis pas utilisé, comprenez-moi, je ne suis pas utilisé toute la richesse du bien par le point de vue de l'intégrité de l'être. Il y a quelque chose dans le bien d'original que je ne peux saisir que dans l'ordre de la causalité. Parce que dans l'ordre de la causalité, le bien est. Pourquoi? Parce que le bien suit la causalité finale. Tandis que le bien est au niveau de la causalité finale. Être, mais en tant que bien, il a une causalité qui dépasse la causalité formelle. Il dépasse la causalité formelle. Donc, alors vous voyez cette chose très curieuse, et ça c'est très important à souligner, ça nous montre bien que la métaphysique qui regarde l'être et l'intégrité de l'être ne peut pas tout dire. Et que je suis obligé d'avoir une autre connaissance du bien que tout ça ne sent. Alors, vous voyez ici, nous voyons comment l'éthique a quelque chose d'irréductible en philosophie. Si l'éthique a quelque chose d'irréductible à la philosophie première, il faut donc nécessairement que, au-delà de la philosophie première, il y ait une éthique pour connaître ce que c'est. L'éthique nous dira quelque chose sur le bien, la métaphysique ne nous dira pas. Vous pouvez faire la même chose par rapport à la théologie scientifique et la théologie éthique. La théologie scientifique, c'est la théologie éthique. La théologie scientifique ne pourra jamais épuiser ce que la théologie éthique dit. Il y aura toujours dans la théologie mystique quelque chose qui est au-delà de la théologie mystique. Et ça, c'est très important. Et vous voyez, ceci, c'est important parce que certains thomistes durs, diraient que la théologie scientifique est la seule théologie. La théologie scientifique permet la théologie mystique. Et la théologie mystique a quelque chose à dire que la théologie scientifique ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que le bien du côté de la causalité est produit par force.